Les grands événements du Collège de France.
Bonsoir à tous. Merci de votre présence dans cette dernière conférence du cycle d'agir pour l'éducation cette année au Collège de France sur le sujet de réenchanter les maths à l'école, les enchanter tout court pour certains enfants peut-être. Donc je suis très heureux d'accueillir au nom des professeurs du Collège de France le professeur Emmanuel Sander, qui est professeur à l'Université de Genève, professeur ordinaire, comme on dit, ce qui veut dire en fait le plus haut niveau de l'échelle des professeurs à la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation de Genève. Emmanuel a un parcours pas totalement typique, puisqu'il a une maîtrise de mathématiques pure, un diplôme d'ingénieur de l'ENSAE, l'École nationale de statistique et d'administration économique, avant de basculer vers les sciences cognitives et la psychologie de l'éducation, où il a fait des contributions majeures, la pédagogie des apprentissages. Il va nous parler évidemment de l'apprentissage des mathématiques et de comment l'améliorer. Je voudrais juste mentionner qu'il est l'auteur de plusieurs livres, et l'un d'entre eux, en fait, a été lancé en français ici, il me l'a rappelé, en 2023, avec Douglas Hofstadter, un livre sur le rôle de l'analogie comme moteur pour le progrès dans le domaine des sciences cognitives humaines. Voilà. Donc c'est un livre intéressant. Vous connaissez Douglas Hofstadter, je pense, pour ses livres très célèbres, notamment le livre Gödel, Escher, Bach. En français, c'est quoi? Une guirlande éternelle. Les brins d'une guirlande éternelle, voilà. Qui est toujours un livre tout à fait intéressant à lire, même des années après. Et donc ce livre sur l'analogie avec Emmanuel Sander. Et plus récemment, Emmanuel vient de publier un livre qui est à destination des enseignants, qui s'appelle « Problematics », dont je pense qu'il va nous parler, en tout cas du contenu, qui insiste sur les manières qu'on peut avoir d'accompagner la résolution de problèmes et de faciliter l'enseignement de la résolution de problèmes chez les élèves. C'est là encore un livre très intéressant et très pratique pour la mise en œuvre dans les classes. Sans plus attendre, donc aidez-moi à accueillir Emmanuel Sander.
Tout d'abord, merci beaucoup Stanislas de cette introduction, et puis merci à toi ainsi que Pierre-Michel Menger et Stéphane Malin d'organiser ce cycle, et ce thème de réenchanter les maths me tient particulièrement à cœur, donc je suis très heureux d'avoir la possibilité d'en parler avec vous. Et donc on va parler de beaux problèmes et de la question de l'intuition mathématique, avec en fait la question de comment faire progresser cette intuition mathématique en s'appuyant sur la résolution de problèmes. En préambule, je voudrais dire qu'il y a une part importante de ce contenu qui s'appuie sur un travail commun avec mon collègue Genevois également professeur ordinaire, pour rappeler cette dénomination, Hugo Minil-Copin, qui est mathématicien. Et en fait, on va donc ici vraiment, la question, ça va être explorer les ressorts de l'intuition mathématique et de ses progrès en faisant appel à la résolution de ce qu'on va appeler des beaux problèmes. J'y viendrai tout à l'heure, mais on va commencer par parler d'intuition. Et plus précisément, mon intervention va se découper en trois vraies parties, et puis une dernière qui sera une conclusion. Donc la première va porter sur la question des intuitions mathématiques. On va essayer de préciser un petit peu ce qu'on entend par là. Précisément, et ça sera l'objet de la deuxième partie, on verra qu'on peut les assimiler à des analogies inconscientes qui parfois vont guider justement le raisonnement mathématique, mais qui parfois vont au contraire l'égarer et faire obstacle. Ensuite, on abordera la question de comment faire appel à la résolution de problèmes, à ce qu'on va appeler des beaux problèmes, pour affiner ces intuitions mathématiques. Et puis, je conclurai assez rapidement, parce que c'est assez copieux, en fait, pour un petit peu revenir sur ce sous-titre de la conférence « Réconcilier intuition et sens mathématique ». Donc, commençons par parler des intuitions mathématiques. Et pour introduire le sujet, une des citations peut-être les plus connues sur le sujet, hein, au point qu'elle en est presque banale, hein, mais c'est intéressant de la rappeler, c'est Henri Poincaré qui dit « La logique reste stérile si elle n'est pas fécondée par l'intuition ». Et en fait, on peut parler avec tous les mathématiciens professionnels, et on n'en trouvera pas un qui n'accorde pas un grand poids à son intuition. Donc cette idée de la place qu'a l'intuition dans la pensée mathématique, c'est certainement une idée cruciale. On peut aussi aborder la question de l'intuition tout simplement à travers le sens commun, parce que la notion d'intuition, c'est une notion qui est familière à un peu tout le monde. Et cette idée d'intuition, elle fait partie donc de ces idées qui sont présentes dans l'imaginaire collectif. Tout le monde la perçoit comme familière. Par contre, lorsqu'il est question de la définir, souvent c'est plus difficile. Et si on veut essayer d'attraper cette notion d'intuition, une façon de procéder, c'est aussi de s'appuyer tout simplement sur les expressions idiomatiques, le langage qu'on utilise lorsqu'on souhaite parler d'intuition. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est souvent dans le registre directement du sensoriel. Vous voyez dans ces exemples, on a les différentes modalités sensorielles qui sont mobilisées. On peut avoir le nez creux, avoir du flair, là on est dans l'olfaction. On peut avoir vu venir quelque chose, cette fois c'est la vision. On peut être dans le tactile lorsqu'on a mis le doigt dessus, ou dans l'audition lorsqu'on a la puce à l'oreille. Et puis si on quitte les modalités sensorielles, là on va être dans l'ordre du sentiment, de l'impression. Donc on peut parler de sixième sens, d'instinct, de pressentiment, de prémonition, d'inspiration. Et donc, de quoi on se rend compte? C'est que si on se fie à notre vocabulaire usuel pour parler d'intuition, on a tendance à être plutôt du côté du sensoriel et du sentiment que de l'intellect. Tout le monde s'accorde que l'intuition, elle est faillible, voire qu'elle peut être trompeuse. Mais ça n'empêche pas qu'elle est en général connotée positivement. On aime bien avoir confiance dans ses intuitions. C'est plutôt quelque chose de favorable en général. Et puis, on peut dire aussi qu'elle est auréolée d'un certain mystère. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que, toujours dans le sens commun, elle est opposée à la logique. Et c'est particulièrement intéressant, presque paradoxal, lorsqu'on est en train de parler de mathématiques, étant donné que les règles qui régissent la véracité d'un énoncé en mathématiques sont, elles, régies par la logique. Maintenant, si on en vient plus précisément à la question de l'intuition mathématique, c'est un sujet, je dirais, à l'échelle de tout ce qui existe dans le monde académique, qui est pas le plus fouillé, loin de là. Il y a un ouvrage qui, à mon avis, est assez remarquable, d'Ephraim Fischbein, qui est un psychologue spécialisé dans des questions de cognition mathématique, qui, en 1987, a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'intuition en sciences et en mathématiques ». Et la définition qu'il en propose, c'est de dire que c'est une cognition qui va paraître subjectivement évidente, d'accord, donc il y a cette idée d'évidence, le fait qu'elle soit directement acceptable, on n'a pas vraiment besoin d'argumenter à ce sujet, que ça donne une vision globale des choses, qu'elle va contraindre les idées qu'on peut produire, et puis qu'elle peut permettre aussi l'extrapolation, c'est-à-dire des nouveaux phénomènes qu'on n'a pas encore abordés vont pouvoir appréhender à travers cette intuition. On peut donc en particulier retenir cette idée d'une connaissance qui est à la fois directe et immédiate, à contraster avec l'image qu'on a d'un raisonnement, qui est souvent un raisonnement déductif qu'on imagine en plusieurs étapes. Et puis, souvent, il y a aussi l'idée d'auto-justification, ce qui est intuitif. On n'a pas forcément le sentiment qu'on a besoin de l'expliquer, parce que ça se justifie par soi-même. Prenons l'exemple de l'addition. Si on demande à quelqu'un d'expliquer pourquoi additionner, c'est ajouter, tout le monde va trouver ça intuitif, probablement, mais on risque d'être assez vite à court d'arguments pour expliquer en quoi est-ce qu'une addition, c'est un ajout. Entre parenthèses, on se rendra compte qu'il y a plein de situations où on additionne sans ajouter, donc l'intuition peut aussi être trompeuse, y compris sur ce plan. Et on se dit que, étant donné que l'intuition est reconnue comme une part cruciale de la pensée mathématique, y compris au niveau mathématique les plus élevés, il y a évidemment un enjeu éducatif très important de chercher à en déterminer les ressorts. Alors, on peut aussi faire un lien entre ces questions d'intuition et puis, toujours, si on est dans le sens commun, cette expression qu'on rencontre de la bosse des maths, ou dans le langage commun, des personnes qui vont dire, par exemple, les maths et moi, ça fait deux. Cette idée très répandue parmi une part de la population, qu'en fait, il y aurait une espèce de capacité mathématique dont on pourrait être pourvu ou dépourvu, qu'on appellerait la bosse des maths. Et je le précise parce que ça ressort d'une conception fixiste de l'intuition, c'est-à-dire qu'en fait, ça revient à dire que certaines personnes seraient dépourvues de capacités mathématiques et donc, bien sûr, d'intuition mathématique. Alors, on peut noter qu'il s'agit d'un manichéisme extrême parce que quand il s'agit par exemple d'intelligence, il y a l'idée que les intelligences peuvent être graduelles, mais lorsqu'il s'agit de la bosse des maths, le point de vue est encore plus radical, on la pense parfois en présence ou absence. Cette vision s'inscrit aussi dans le cadre des travaux sur les questions de fixed mindset versus growth mindset, c'est-à-dire les travaux de Carol Dweck qui a identifié qu'il y avait différentes conceptions qu'on pouvait avoir de l'esprit humain, certaines qui sont plutôt fixistes et d'autres qui sont plutôt ce qu'on appelle incrémentales, c'est-à-dire que on perçoit l'être humain comme ayant des capacités de transformation, et le fait d'avoir le point de vue fixiste ou le point de vue incrémental est très important parce que lorsqu'on a le point de vue incrémental, il y a l'idée justement qu'il n'y a pas une bosse des maths qui est figée, mais qu'au contraire on peut transformer. Lorsqu'on a le point de vue fixiste, on a l'impression qu'il y a des capacités qui sont figées. Il y a certains travaux qui montrent que, par exemple, si on va féliciter un élève pour le travail qu'il a accompli, eh bien, ça va avoir plus de portée potentiellement sur ses progrès que si on le félicite pour son talent. Ça s'explique bien parce que si on félicite pour le travail, on est en train d'avoir une approche processuelle et on souligne le fait que le travail peut apporter une transformation, alors que si on souligne si on vante le talent, cette fois on a un point de vue qui est plus fixiste dans la mesure où on considère que c'est un déjà là et du coup ça apporte pas forcément grand chose. Il faut préciser que cette question de bosse des maths, surtout dans sa vision en présence ou absence, n'a pas de fondement scientifique, et puis qu'elle a un effet doublement pervers. Alors le premier effet pervers, c'est que ceux qui pensent qu'ils en sont dépourvus s'en sentent déresponsabilisés et inaptes à faire tout progrès, et puis ceux qui réussissent bien en maths, ça dévalorise d'une certaine façon leur réussite parce qu'on se dit ils ont été dotés par la nature de la bosse qu'il fallait. Alors il y a beaucoup d'éléments qui vont complètement à l'encontre de cette idée de la bosse des maths. En particulier l'idée que certaines personnes en seraient pourvues ou d'autres. Alors il y a des arguments qui sont vraiment liés à tous les travaux dès la naissance. Je pense par exemple à la conférence qu'a donnée Elisabeth Spelke en introduction de ce cycle. On se rend compte qu'il y a de nombreuses capacités mathématiques qui sont présentes de façon très précoce, donc cette bosse des maths, d'une certaine façon, elle semble déjà présente à sa manière à la naissance. Et puis, il y a aussi, tout simplement, lorsqu'on s'intéresse à l'histoire des mathématiques et de voir comment des concepts mathématiques, progressivement, ont infusé dans la culture, dans nos sociétés. Et si on prend l'exemple du concept de nombre, on peut considérer que par rapport à l'histoire de l'humanité, il existe depuis une toute petite fraction de cette histoire de l'humanité, et en particulier, si on parle des notations en chiffres arabes, celles qui nous sont familières, ça va être à peine millénaire. Et qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que finalement, on se retrouve avec un écolier à l'école primaire qui se retrouve en savoir plus que des anciens d'il y a quelques siècles. On peut dire la même chose du zéro, se rappeler que cette idée de dénoter l'absence, on la date à peu près du 4e siècle avant Jésus-Christ, le fait qu'il y a un symbole pour la... Et puis l'idée que ça soit un nombre, ça commence plutôt à apparaître en Inde au 5e siècle après Jésus-Christ. Et puis l'introduction occidentale qu'on attribue à Leonardo Fibonacci, elle serait plutôt du 12e siècle. Donc on voit que là encore, ce qui paraît maintenant un bagage culturel de tout écolier a mis quand même du temps à se développer. On peut parler aussi du signe égal, dont la notation est quand même assez récente, elle n'a que 5 siècles. Et puis, on ne le sait pas toujours, d'où sort ce signe égal. C'est Robert Ricord, le mathématicien gallois, qui explique qu'il l'a dessiné comme cela parce que c'est une paire de parallèles, parce qu'elles sont deux lignes jumelles et que rien n'est plus pareil que deux jumeaux. On peut aussi parler des nombres négatifs. Et vous voyez que la question des nombres négatifs, ça a été un débat, un long débat pas dans l'histoire des mathématiques. Et par exemple, au 19e siècle, presque la moitié du 19e siècle, vous voyez de Morgan qui argumente autour de cette question des nombres négatifs en disant 3 moins 8, c'est une impossibilité, cela exigerait d'enlever de 3 plus que ce qu'il y a dans 3, ce qui est absurde, alors que la notion de nombre négatif, elle est maintenant, elle fait partie du cursus obligatoire, de la scolarité obligatoire. Et donc on se retrouve avec cette situation où il y a tout un ensemble de notions mathématiques qui font l'objet donc d'intuitions mathématiques. Celles-ci, comme je le disais, elles peuvent être exactes ou être trompeuses. On va l'approfondir dans quelques minutes. Mais des exemples d'intuitions, ça peut être que l'idée qu'une moyenne est comprise entre le plus petit et le plus grand nombre d'une série. Je pense que la plupart des personnes peuvent trouver cela intuitif, ou encore que multiplier en plus grand ou que diviser en plus petit, ça fait partie des intuitions répandues, ce qui signifie bien sûr pas qu'elles sont justes. Et puis il y a un enjeu aussi qui est celui de désacraliser l'intuition, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a cette idée qu'elle est auréolée de mystère, qu'elle est connotée positivement, mais qu'on a tendance en fait à pas vraiment creuser ce qu'elle est. Donc on a vu qu'il y a cette conception un petit peu absurde qui relèverait du fixed mindset, de considérer qu'elle ne peut pas bouger. Et puis il y a aussi la question si on veut vraiment s'attacher, avoir un point de vue développemental sur l'intuition, il s'agit d'ouvrir la boîte noire des intuitions, avec l'idée de se donner les moyens d'agir sur les intuitions pour démocratiser l'éducation, parce que bien entendu, si jamais on comprend mieux les ressorts, on est en mesure d'agir sur ces ressorts plutôt que de supposer de le laisser à l'arbitraire des expériences individuelles. Et donc on en arrive à la deuxième partie, qui est la question de ces analogies inconscientes qui parfois vont guider, sous-entendu, favorablement les intuitions, et parfois vont au contraire nous égarer. Alors, ces analogies, les intuitions, alors une façon assez brute, on va dire, de les caractériser, je vais bien sûr développer, c'est de dire qu'on peut considérer que ce sont, il y a trois termes, des analogies inconscientes assimilées. Alors, la première idée, l'idée de l'analogie, c'est qu'en général, quand on s'intéresse à une intuition, quand on va creuser les sources d'une intuition, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a une analogie avec une connaissance familière, une connaissance qui est issue de l'expérience quotidienne. Ça vous paraît peut-être pas évident pour la raison du second terme, qui est qu'elles sont inconscientes. Donc, il y a quand même un certain travail pour identifier ces sources d'intuition. Elles échappent en général à l'analyse explicite, même si vous verrez bien sûr qu'il y a des moyens de les identifier. Sinon, on serait bien entendu, on quitterait le champ de la recherche scientifique. Et puis, une autre de leurs caractéristiques de ces intuitions, en particulier les intuitions premières dont on va parler maintenant, c'est qu'elles sont assimilées, c'est-à-dire qu'en fait, souvent, elles sont ancrées dans des connaissances qui sont culturellement véhiculées, qui sont enracinées du fait de très très nombreuses expériences que l'on a eues autour de ces idées, et donc on a de ce fait tendance à peu les remettre en cause parce qu'on a une grande confiance dans ses intuitions. Alors, on va prendre un premier exemple, et puis parfois, c'est plus clair d'éclairer quelque chose par autre chose, et donc, du coup, je le prends hors des mathématiques, cet exemple. Un exemple qui est tiré d'une étude sur la question de la représentation que les enfants ont de la forme de la Terre. Et en fait, dès 5 ans, à peu près 95% des enfants disent que la Terre est ronde. Simplement, ça serait abusif de penser que parce qu'ils disent que la Terre est ronde, ils ont le modèle sphérique en tête. En fait, la plupart des enfants de 5 ans ou 6 ans n'ont pas du tout le modèle sphérique en tête. Ils ont en fait le modèle qui correspond au dessin que vous voyez sur cette diapo, qui est plutôt le modèle d'une Terre qui est ronde, mais qui est plate. D'accord ? Et c'est une façon de concilier la connaissance qui est culturellement véhiculée, parce que dès le plus jeune âge, les parents, en général, expliquent à leur enfant que la Terre est ronde, et en même temps, l'expérience, qu'on n'est pas debout sur une boule, parce que on n'imagine bien sûr pas qu'elle ait une taille tellement grande. Et vous voyez, ici, on a un exemple de dialogue entre une chercheuse et une élève, en l'occurrence de 5 ans et demi, qui lui dit, voilà, tu marches tout droit sur Terre sans t'arrêter. L'élève dit, je vais arriver dans d'autres villes, et si tu continues encore et encore à marcher, là j'arriverai sur le bord de la Terre, ah oui, et si tu marches encore, là je vais tomber du bord, et où est-ce que tu vas tomber? Je vais tomber sur d'autres planètes, et là vous voyez un peu la représentation qu'a cet enfant, et on voit que cette conception intuitive de la Terre, elle va dériver d'une analogie. Ici on peut dire par exemple l'analogie avec une table ronde, ou plus généralement l'idée que tout ce qui est plat a un bord, dans l'expérience bien sûr enfantine, et donc elle est issue de cette connaissance de la vie quotidienne qui lui permet, vous vous souvenez qu'on disait tout à l'heure qu'on pouvait extrapoler à des situations non rencontrées, bien sûr cet enfant n'a jamais été amené à aller jusqu'au bord de la Terre, mais son intuition lui dit que ce serait qu'il y a un bord et qu'on peut en tomber. Alors, les intuitions ont un domaine de validité. Là, on va revenir sur les intuitions mathématiques. Et l'intuition, on peut dire qu'elle a un domaine, en général, un domaine de validité partiel. Elle va être aidante à l'intérieur de ce domaine de validité et potentiellement trompeuse à l'extérieur de ce domaine de validité. Alors déjà, ça donne une certaine opérationnalisation possible en matière d'éducation, parce qu'on peut toujours chercher quel est le domaine de validité d'une intuition et au contraire, quelles sont les zones qui sont hors du domaine de validité, qui sont potentiellement à travailler pour un enseignant. Prenons un exemple, et je vais... pour ceux qui le veulent bien vous mettre à contribution, si je vous propose d'inventer un problème de soustraction dont la solution est 8-3 égale 5, ça va, je vous ai laissé le temps nécessaire pour le faire. Alors, si vous êtes comme à peu près 90% ou plus à la fois des élèves d'école primaire, des collégiens, des lycéens et des étudiants à l'université, le problème qui vous est venu à l'esprit, c'est un problème où on est parti d'une certaine quantité de 8. Ensuite, il y a un événement qui a survenu, qui a fait baisser cette quantité. Et puis, la question, c'est combien reste-t-il ? D'accord ? Donc, on a fait de façon systématique des recherches sur le sujet. Et plus de 90% des propositions sont de cet ordre. Et ça nous dit exactement ce qu'est l'intuition de la soustraction. L'intuition de la soustraction, c'est que soustraire, c'est perdre, retirer, enlever, et puis chercher ce qui reste. Alors, ça serait... voyez, on peut l'illustrer de cette façon, c'est-à-dire on se rend compte qu'on a le domaine de validité de l'intuition, et puis on a un angle mort, qui sont en fait toutes les autres situations de soustraction qui ne sont pas de cette sorte. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y en a beaucoup, des situations qui ne sont pas de cette sorte ? Alors, probablement, à moins que vous soyez vraiment spécialiste de ces questions, ça vous vient moins facilement à l'esprit. Et par exemple, si on se dit, est-ce que vous pouvez inventer un problème de soustraction dont la solution est 8-3 égale 5, dans lequel on ne perd rien, on ne fait que gagner ? Eh bien, normalement, ça va tout de suite être un petit peu difficile ou un petit peu différent déjà comme processus pour trouver. Alors, on va pas transformer ça en séance de torture, mais un exemple, il y a des exemples très très concrets, tout aussi concrets que le précédent. Si je vous dis Lou a 3 cartes, elle en gagne pendant la récréation, maintenant elle en a 8, combien de cartes a-t-elle gagné ? Vous voyez qu'il n'y a vraiment aucune arnaque ici, on a vraiment une situation de soustraction dans laquelle on cherche combien on a gagné. Cette situation est tout aussi concrète que l'autre, la seule différence c'est que elle est dans l'angle mort de l'intuition. Alors, ces situations qui sont dans l'angle mort de l'intuition, il y en a plein. Ici, vous avez un petit échantillon. Je pense que ça sera un petit peu fastidieux et pas forcément nécessaire de les lire toutes. Mais juste pour se rendre compte, c'est qu'il y a des littératures assez techniques, assez pointues, qui ont cherché à identifier toutes les sortes de problèmes de soustraction. Au total, il y en a une douzaine. Et parmi la douzaine de problèmes qui a été identifié, l'intuition, ça n'en concerne qu'une seule. Donc c'est pour vraiment qu'on se rende compte à quel point on n'est pas en train de parler d'un épiphénomène, mais de quelque chose de central. Ce qu'on a fait pour la soustraction, si jamais le temps nous était donné, et ce n'est pas le cas, ben on pourrait faire exactement la même chose pour les autres opérations. Et par exemple, tout à l'heure, on avait l'idée que additionner, c'est ajouter. Alors, si je vous demande de chercher un problème d'addition dans lequel on ne fait que perdre, eh bien, là encore, probablement, ça va être une difficulté. Parfois, on est tenté de trouver des solutions où on ajoute des pertes, mais en fait, c'est un petit peu contourner le problème. Mais si vous avez un problème, par exemple, le loup avait des billes, elle en perd 3, il lui en reste 5. Combien est-ce qu'elle en avait au début ? Vous voyez que c'est une situation où on n'a fait que perdre, et pourtant, la solution est une addition. Et là, on a vraiment du mal à l'associer à un ajout, et c'est incontestablement un problème d'addition. On a le même phénomène pour la multiplication. Ce qui va guider l'intuition de la multiplication, c'est vraiment l'idée de répliquer quelque chose et d'additionner les valeurs qui sont associées à chacune de ces répliques. Et typiquement, j'ai 3 boîtes de 10 gâteaux. Combien ça fait de gâteaux au total ? On a dupliqué la même boîte et on en fait 3. Et puis, pour la division, c'est vraiment le partage en part égale avec une recherche de la taille de la part. Donc les questions, lorsqu'on invente des problèmes de division, c'est quasiment tout le temps combien est-ce que chacun a reçu, quelle est la taille de la part, ce qui rend difficile de trouver des problèmes où diviser en plus grand, alors que des problèmes où diviser en plus grand sont très nombreux. Alors on a fait des travaux qui montrent que les 3/4 des adultes échouent à trouver de tels problèmes, mais si je vous dis par exemple j'ai 2 litres d'eau, combien est-ce que je peux remplir de verre de 0,25 litres ? Eh bien on fait 2 divisé par 0,25, ça fait 8, et on est avec une division qui rend plus grand. Alors, il y a plein de travaux qui permettent de montrer qu'il y a évidemment un très fort lien entre la réussite à des tâches et puis le fait qu'on soit justement dans le domaine de validité de cette intuition. Vous voyez ici le premier, là on est sur des élèves de CP, Paul a 7 billes, il en donne 3 à Jean, combien lui en reste-t-il ? Là tous les élèves réussissent. Le deuxième, vous avez un problème qui est assez proche dans sa formulation, mais cette fois c'est un problème de comparaison. Est beaucoup moins évident, comme vous le voyez, parce que la réussite, elle passe de 100% à 1/5 de la classe. Et puis, en fait, si on raisonne en termes d'années scolaires, il y a à peu près 2 années scolaires qui séparent les élèves qui réussissent le premier à ceux qui réussissent le second. Bien sûr, on se rend compte que le défi d'enseignement crucial qu'il y a à ce que les élèves soient en mesure de faire l'analogie entre le premier et le deuxième problème et qu'il y ait une unification suffisante de la notion de soustraction pour que les deux cas paraissent dans l'intuition aussi de la soustraction. Ici, c'est sur une recherche qu'on a menée avec la DEP où on met en évidence la question de l'addition répétée pour la multiplication par rapport au rapport. Vous voyez, quand on dit que Louise a acheté 6 paquets de 3 biscuits, on demande combien de biscuits elle a acheté. Cette addition itérée, les élèves arrivent en CE1 de façon assez fréquente à la faire. Par contre, si vous êtes du combien de fois plus, alors l'idée d'associer fois plus à une addition est beaucoup plus difficile et on a des résultats très probants, y compris au collège. On a aussi le fait que la commutativité de la multiplication, ce n'est pas intuitif. Comment est-ce qu'on s'en rend compte ? Ici, on a un élève de CE2 à qui on a demandé combien il y a de stylos dans 10 tas de 2 stylos. Alors, je vous laisse regarder comment l'élève résout ce problème. Et le même élève, si on lui dit combien il y a de stylos dans 2 paquets de 10 stylos, évidemment, il trouve instantanément. D'accord ? Donc là, vous voyez qu'il fait 10 fois l'addition de 2 parce que la commutativité n'est pas dans le champ de l'intuition. Une autre situation qui a été un petit peu médiatisée lorsqu'on a fait l'étude il y a peut-être 2 ans, toujours avec l'ADEP, on demande à des élèves combien est-ce qu'il y a de quart d'heure dans 3 quarts d'heure. Et vous voyez qu'en 6e, on n'a que la moitié des élèves qui trouvent, pourtant sur un QCM avec 4 réponses possibles. Et puis en 4e, on passe difficilement, on va dire, à 60% de bonnes réponses. Et là, on est en train de vraiment mettre le doigt sur le fait que c'est pas intuitif que additionner 3 fois 1/4, ça fait 3/4 d'une quantité. On pourrait développer un petit peu les raisons pour lesquelles c'est pas intuitif, mais en tout cas, ça montre que ça ne l'est pas. Et puis, alors, il y a aussi un phénomène qui commence à être bien documenté, c'est la persistance chez l'adulte. Et ici, c'est une étude qu'on a menée auprès de référents mathématiques de circonscription, parce qu'évidemment, ce phénomène, il est potentiellement vie entière et indépendant presque du métier, hein, y compris lorsqu'on est enseignant, voire mathématicien, parce que ces intuitions premières, elles n'ont pas de raison de disparaître. Et ici, la question qui avait été posée, c'est pour chacune des quatre opérations arithmétiques, on demandait aux personnes, par exemple pour la première, c'était additionner ces trois petits points et donner un verbe. D'accord ? Et je pense que vous pouvez voir le halo qui se dessine, hein, et il est centré sur ajouter, donc c'est-à-dire que c'est la réponse la plus fréquente, et puis vous avez tout un ensemble de termes hein, qui sont du même champ sémantique, hein, vous voyez, totaliser, rassembler, augmenter, réunir, rassembler, compléter, rajouter, réunion, cumuler, mettre ensemble, etc. Et puis pour le deuxième, je pense que tout le monde peut deviner quelle était l'opération arithmétique concernée. C'était la soustraction, évidemment, et vous voyez qu'on est autour de enlever, mais si on regarde ce qui se passe à côté, on voit retrancher, ôter, retirer, réduire, perdre, diminuer, reculer, etc., enlever. Et puis le suivant, on reconnaîtra, je pense, la multiplication. On a augmenté, qui est central, hein, donc quand je vous disais que multiplier rend plus grand dans l'intuition de la multiplication, on le voit bien. Et puis on retrouve réitérer, dupliquer, répéter, reproduire, itérer, accroître. Et le dernier, évidemment, c'est la division avec le partage, hein, qui est au cœur de l'intuition de la division. Fractionner, diminuer, répartir équitablement, réduire, séparer, etc. Également, on a des travaux qu'on a menés dans lesquels on cherche si spontanément les adultes vont pouvoir penser à des situations hors du domaine de validité de l'intuition. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait exactement la même tâche que ce que je vous ai proposé pour la soustraction. On propose inventer un problème de soustraction, la même chose pour l'addition, la multiplication et la division. Et ce qu'on voit à gauche de la diapo, c'est qu'en moyenne, 89% des adultes, qu'il a été des enseignants en formation ou en activité à l'école primaire, vont spontanément aller vers ces problèmes qui sont dans le domaine de validité de l'intuition. Et c'est très minoritaire, on est à 11% des domaines qui sont hors de ce domaine de validité. Et puis, lorsqu'on demande explicitement, comme on l'a fait, inventer un problème de soustraction dans lequel on ne fait que gagner, on se rend compte que ça reste une tâche très difficile, donc y compris pour ces adultes enseignants ou futurs enseignants, où on en a un quart qui parvient vraiment à répondre à la tâche telle qu'on l'attendait. Donc on voit l'enjeu important qu'il y a à identifier ces domaines de validité et les rendre tout à fait explicites et conscients dans le cadre d'une séquence d'apprentissage d'enseignement, parce que c'est pas du tout évident spontanément de construire ce type de problème. On peut dire aussi que les plus grands mathématiciens sont concernés par le phénomène, parce que on pourrait penser que ça concerne les débutants ou les personnes qui sont un petit peu, qui n'ont pas une grande expertise en mathématiques, mais en fait il y a des évidences nombreuses historiques qui montrent que ce phénomène, lorsqu'on est à la pointe des idées mathématiques d'une époque, les grands mathématiciens vont aussi devoir se battre, entre guillemets, avec leurs intuitions. Parmi les phrases célèbres, on a Cantor qui a réussi à démontrer qu'en fait l'infini d'un segment était de même taille que l'infini d'une surface. Et sa démonstration était incontestable, mais elle était tellement contre-intuitive même pour lui qu'il a eu cette fameuse phrase « je le vois, mais je ne le crois pas ». Et puis Kronecker, qui était un grand ennemi de Cantor, qui a retardé de plusieurs années la publication de sa preuve, l'a qualifié de vide de sens, qu'elle était condamnée sans appel. Il y a vraiment l'idée qu'on va rejeter des idées qui sont trop distantes de l'intuition, y compris lorsqu'on est un mathématicien de très haut niveau. Alors il y a un cas bien connu sur cette question que je vais évoquer, c'est ce qu'on a appelé pendant longtemps les fonctions qualifiées de pathologiques. Alors déjà, le qualificatif même en dit beaucoup. Et qu'est-ce que sont ces fonctions pathologiques ? Ben, en fait, ça repose sur... on part de l'intuition de la continuité. Et pour ceux, ça sera, l'épisode vraiment plus mathématique de ma conférence. Après, on reviendra des choses un peu moins pointues. Mais l'intuition de la continuité, ben, en général, c'est tout simplement qu'on peut tracer sans lever le stylo. D'accord ? Donc, c'est ça l'analogie avec la connaissance de la vie quotidienne, c'est le traçage dans lequel on n'a pas besoin de lever le stylo. Et puis, l'idée de dérivabilité, c'est le fait qu'on puisse tracer des pentes, qui est une tangente, qu'il y ait des portions assez lisses de la courbe pour tracer des tangentes à une courbe. Alors, pendant longtemps, l'intuition, ça a été que si jamais on zoome suffisamment sur une fonction, on va pouvoir trouver des dérivés. Et il se trouve que Ampère, lui-même, en 1806, pensait avoir démontré que c'était vrai. Et ensuite, Bolzano, qui ne l'a pas publié, mais qui a trouvé ce type de fonction en 1820, et puis Weierstrass, qui l'a publié en 1872, a identifié des fonctions en fait qui ne sont pas traçables, c'est-à-dire qu'en fait on peut pas zoomer, enfin cette expérience de pensée du zoom ne fonctionne pas, et donc qui sont hors du champ de l'intuition d'une fine ligne d'encre tracée sans lever le stylo. Eh bien, figurez-vous que ça a déclenché un grand émoi chez les mathématiciens de l'époque. Il y a plusieurs citations presque aussi violentes que celle-ci, mais par exemple, vous avez Charles Hermite, qui est par ailleurs un très grand mathématicien, qui dit « Je me détourne avec effroi et horreur de cette plaie lamentable des fonctions continues qui n'ont point de dérivée. » Vous voyez le choc de la contre-intuition. Et il faut quand même savoir que toutes ces fonctions, ça a donné lieu à un champ énorme des mathématiques qui sont les mathématiques fractales. Donc c'est très loin d'être un épiphénomène horrible, et d'autant que les mathématiques fractales permettent de faire aussi des magnifiques représentations. Donc de les appeler des plaies lamentables, c'est un petit peu curieux. Alors la question maintenant des beaux problèmes pour affiner les intuitions. En fait, je pense que tout le monde voit un petit peu où je veux en venir. C'est que, si on reprend notre schéma de tout à l'heure, on a envie que ce qui était foncé devienne clair, en fait, et que tous les problèmes de soustraction, ils seront jamais tous autant intuitifs, peut-être que la soustraction où on cherche qui reste, mais en tout cas qu'ils deviennent suffisamment assimilables à quelque chose d'intuitif, ce qui est sans doute le cas pour beaucoup d'entre vous. Alors, comment est-ce qu'on peut envisager, à travers cette question de la résolution de problèmes ? Alors, j'en profite pour faire un petit détour par une plateforme qu'on a élaborée au Conseil scientifique de l'éducation nationale qui s'appelle la Problématèque, et j'en profite pour souligner le travail très important de Romain Bourdoncle qui est ici, et puis Marie Libino. Et l'idée, c'est de mettre à disposition justement des beaux problèmes. Il faut aussi dire que c'est rendu possible par tout un ensemble de coordinatrices et coordinateurs qui sont représentés ici et qui font que cette banque de problèmes a pu être développé, en s'appuyant aussi sur tout un travail existant depuis de longues années autour de cette question des beaux problèmes. Et autour de ces différents domaines, on essaye de couvrir les différents domaines programme et des différents niveaux scolaires. Il y a à peu près 200 problèmes actuellement qui sont proposés. Et il y a des fiches qui, à chaque fois, sont organisées selon un certain canevas, et ce qui permet, de façon systématique, pour un enseignant qui souhaite s'en saisir, pas simplement d'avoir l'énoncé du problème, mais aussi de tout un ensemble d'accompagnements intéressants, qu'il s'agisse des objectifs ciblés, les prérequis nécessaires, les stratégies de résolution qu'on peut observer, les moyens pour aider les élèves, les pistes de différenciation, etc. Et puis, donc, il y a des fiches qui se présentent sous le format que vous voyez ici. Alors, Ces problèmes, hein, qu'on a au départ, c'était l'idée des beaux problèmes, ben, comment est-ce qu'on peut les caractériser? Eh bien, s'il y a l'idée d'une démarche de résolution qui n'est pas connue à l'avance, qui va inviter les élèves à approfondir leur compréhension des notions, et puis ils peuvent avoir certaines caractéristiques, hein, c'est pas des conditions ni nécessaires ni suffisantes, mais désirables, on va dire. Donc il peut y avoir un effet eureka, ils peuvent être amusants, il y a l'idée d'énoncer qui soit clair et bref, la concrétude, la nouveauté, l'originalité, et puis ce qui est plus pertinent ici, c'est leur potentialité à faire évoluer l'intuition. Alors comment est-ce que on peut y arriver? Et là, on va se centrer sur la question de la résolution de problèmes à énoncer et voir comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur des énoncés de problèmes pour faire évoluer les intuitions. Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est lorsqu'on est face à un problème à énoncer, eh bien, ce problème va relever à la fois de la cognition numérique, hein, de la cognition mathématique, parce qu'on est en train de travailler des maths, mais en même temps, il est aussi du ressort de la cognition langagière, parce que, tout simplement, il y a des mots qui sont utilisés, et ces mots font appel, hein, au langage. Et donc, dans un problème à énoncer verbal, on a à la fois des concepts extra-mathématiques, ce sont les concepts verbaux, et puis des concepts mathématiques, ce sont ceux dont il est question dans le problème, qui vont être intriqués. Et il y a l'idée que c'est l'opportunité, je vais pouvoir l'illustrer de façon très précise, qui va être donnée aux élèves de développer leurs connaissances en s'appuyant sur les concepts extra-mathématiques pour développer des connaissances mathématiques. Et donc c'est l'idée de la résolution de problèmes qui viendrait en appui du sens des notions mathématiques. Alors cela, on l'a développé dans un modèle qui s'appelle le modèle SECO, pour l'idée de du fait qu'une situation va être ou non congruente avec l'intuition. Et dans ce modèle, il y a d'un côté un énoncé de problème qui va faire l'objet d'une interprétation par la personne qui veut résoudre le problème. Et puis, en fait, cette interprétation, elle va s'appuyer sur la sémantique du monde, hein, comme tout à l'heure lorsqu'on a parlé du fait que soustraire, c'est enlever, par exemple. Elle va donner lieu à une structure interprétée à partir de laquelle l'élève l'individu qui résout un problème va tenter de le résoudre. Eh bien, lorsque l'intuition rencontre cet énoncé de problème, eh bien, c'est le chemin en haut à gauche qui va être emprunté, ce qui va mener au succès, mais par rapport à l'angle mort de l'intuition, ça ne fait pas progresser l'élève. En revanche, il y a un autre chemin qui est celui qui est en bas à droite, qui est le chemin de l'apprentissage, où cette fois, la question va être de comment dépasser une première interprétation qui n'est pas adaptée pour résoudre le problème et la faire évoluer pour cette fois qu'elle puisse amener à une résolution. On prend des exemples très très concrets parce que bien évidemment ça a besoin d'être concrétisé. On prend les deux premiers énoncés qui ont été posés à des élèves de CP, c'est des résultats très classiques. Le premier, on va dire, il y a 5 oiseaux et 3 vers, combien y a-t-il d'oiseaux de plus que de vers? Et le second, il y a 5 oiseaux et 3 vers, combien d'oiseaux n'auront pas de vers? Et puis ensuite, pour des adolescents, une recherche qui a été menée au Brésil, combien coûtent 3 objets à 50 cruzeiros selim? C'est des adolescents brésiliens non scolarisés, mais qui font du commerce de rue, ou alors combien coûtent 50 objets à 3 cruzeiros selim? Alors, ça ne vous échappe pas, bien sûr, que tous ces problèmes, à chaque fois, les deux versions se résolvent par la même opération mathématique. En fait, il y a des écarts de difficulté qui sont massifs entre ces énoncés. Et ces écarts de difficulté, vous voyez que dans le premier cas, on a à peu près un quart des élèves qui trouvent, alors que pour le deuxième, on a la quasi-totalité. Et puis, c'est d'un certain point de vue encore plus massif dans l'autre situation avec les adolescents, parce que là, il y a carrément personne qui trouve. Alors, si on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe du point de vue du modèle SECO, ben qu'est-ce que ça nous dit? Ben ça nous dit par exemple que dans le premier, dans le cas des oiseaux et des vers, eh bien lorsque vous êtes sur combien d'oiseaux n'auront pas de vers, ben qu'est-ce qui se passe? Les élèves imaginent un scénario où vous avez trois oiseaux qui arrivent à manger un ver, et puis il y a deux oiseaux qui se retrouvent tout seuls. Donc il y a une espèce d'appariement qui est fait entre les oiseaux et les vers, et puis il y a deux oiseaux isolés, et ils trouvent la réponse. Lorsqu'on est dans l'idée de combien de plus, là on a deux ensembles à comparer, et c'est beaucoup plus difficile, parce qu'on a une déconnexion entre les deux, il n'y a pas cet appariement qui se fait. Dans le deuxième cas, en fait, les adolescents font à chaque fois la même chose, mais la même chose, ça, c'est pas aussi facile à chaque fois. C'est-à-dire que dans le premier cas, ils trouvent la solution en faisant 50 plus 50 plus 50, et dans le deuxième cas, je pense que vous avez saisi ce qui se passe. D'accord ? Ils se lancent dans 3 plus 3 plus 3 plus 3, et bien sûr, aucun d'entre nous n'arriverait au bout de cette opération si on n'avait pas d'autres moyens de le faire. Et donc, il y a vraiment cette idée de surmonter les intuitions trompeuses en résolution de problèmes, avec une diversité de situations qui peuvent être élaborées en mettant l'élève face à des contextes d'apprentissage qui soient vecteurs de progrès. Et donc, il est attendu que les élèves développent une plus grande autonomie conceptuelle et d'être moins influencés par des indicateurs superficiels. Alors, pour cela, une manière de travailler hein, ces questions, de dépasser la compréhension intuitive première, eh bien, c'est de s'appuyer sur ce qu'on appelle le recodage sémantique. Alors, je sais que le terme peut paraître un petit peu technique, mais là encore, ça va être très concret. Et l'idée, c'est de pouvoir attribuer à une situation des propriétés qui, d'habitude, sont attribuées à une autre. Quand je parlais tout à l'heure des notions quotidiennes et des notions mathématiques qui sont intriquées dans un problème énoncé verbal, on va pouvoir l'illustrer très concrètement. Et c'est une façon de favoriser une conception plus abstraite de la notion mathématique et d'en développer l'intuition. Alors, prenons le cas suivant. Si je vous dis j'ai 12 oranges et 4 paniers, combien est-ce que cela fait d'oranges par panier ? Eh bien ça, on est dans le champ de l'intuition. Pourquoi ? Parce qu'il y a une relation fonctionnelle qui existe, bien sûr, entre les oranges et les paniers. Et donc, à peu près tout le monde, hein, dès un âge assez jeune, eh bien, vont associer cet énoncé à une division. Par contre, si je dis j'ai 12 oranges et 4 pommes, combien est-ce que cela fait d'oranges par pomme ? Eh bien, je pense que tout le monde se rend compte que ça saute moins aux yeux. Et en fait, on attend d'élèves dès la fin de l'école primaire qui soient tout à fait capables de répondre à ce type d'énoncé, parce qu'on est en train de potentiellement travailler la notion de rapport, et si jamais les élèves ne sont pas en mesure de le faire en fin de primaire, il y a tout un ensemble de difficultés qui seront très très difficiles à surmonter, par exemple dans les raisonnements de proportionnalité. D'accord ? Donc ce pas, il est absolument crucial de savoir qu'en fait, on peut attribuer à la situation orange-pomme des propriétés qui sont habituellement attribuées à la situation orange-panier. Donc c'est ça vraiment cette idée du recodage sémantique, de percevoir une relation, ici une relation multiplicative, sans être dépendant de relations sémantiques. Ici c'est la relation fonctionnelle contenant contenu. Un autre exemple, si on prend l'énoncé suivant, pour un concours, le fleuriste prépare pour chaque candidat 5 roses et 7 tulipes. De combien de fleurs a-t-il besoin en tout ? Eh bien, si on donne ce problème à des élèves, on va se rendre compte que le plus souvent, ce qui va être utilisé, c'est une stratégie de développement, parce que le premier raisonnement qui vient à l'esprit, eh bien, c'est de dire bah, il y a 14 groupes de 5 roses et puis 14 groupes de 7 tulipes. Mais si on ajoute l'idée qu'il y a un bouquet qui est constitué, eh bien, ça va pouvoir favoriser la possibilité de regrouper les roses et les tulipes et d'envisager ce qu'on appelle cette fois une factorisation. Et on voit comment, en classe, en systématisant cette approche, on peut, de façon, on va dire, vraiment volontaire, rendre visibles des propriétés mathématiques qui, sinon, ne le sont pas. Ici, c'est sur la question de la commutativité de la multiplication qu'on a évoquée. Si on dit « Marie a acheté 20 cartons de yaourt il y a 3 yaourts par carton, combien a-t-elle de yaourts en tout ?» Eh bien, on est sur l'idée d'additionner 20 fois la valeur 3. Par contre, si jamais on met des parfums au yaourt, vous voyez que tout d'un coup, vous pouvez imaginer une addition en colonne. Et cette addition en colonne, c'est une façon de se figurer que la même quantité, c'est aussi additionner la valeur 20 fois la valeur 3.
De cette manière, on peut aussi travailler en classe. C'est toujours l'idée d'avoir d'un côté un problème qui est dans le champ de l'intuition, d'un autre côté un problème qui est hors du champ de l'intuition, et puis de chercher à les comparer entre eux pour faire apparaître aux élèves qu'il y a une même unité, même notion mathématique sous-jacente qui les unit. Par exemple, là, on a Tom avait 30 cartes, il a perdu 10 cartes pendant la récréation, combien de cartes lui reste-t-il? Là, vous vous souvenez, on est dans le domaine de validité de la soustraction. Le deuxième, c'est la situation, il est en train de gagner. Ici, le suivant, on a quelque chose d'analogue avec une question de rapport multiplicatif. On peut aussi travailler en comparant des énoncés, en disant par exemple, tu peux souligner, surligner ce qui dans tel problème correspond à tel autre problème, de façon à faire apparaître ces analogies sur le plan de la structure mathématique du problème. Alors, le recodage sémantique est généralement soutenu par l'idée de pouvoir avoir des visualisations des propriétés qui sont mathématiquement pertinentes et qui permettent de représenter sous un même format des problèmes qui sont dans le champ de l'intuition et des problèmes qui sont hors du champ de l'intuition. Donc ici, pour des énoncés qui sont plutôt du champ additif, c'est-à-dire des additions et des soustractions, on peut faire appel à différents outils, l'un qui met l'accent plutôt sur les dimensions, on va dire, ordinales de succession de nombres, et l'autre qui fait plutôt appel aux dimensions cardinales avec les relations de type partitout. Ça, c'est pour le champ additif. Et puis, pour le champ multiplicatif, l'intérêt de pouvoir utiliser le nombre rectangle qui fait apparaître un produit comme la surface d'un rectangle, parce que vous voyez que lorsqu'on fait cela, on s'éloigne du modèle de l'addition itérée et on peut percevoir de façon plus directe la commutativité de la multiplication. Ces modèles ont aussi un intérêt de faire apparaître les représentations des élèves qui parfois se trouvent en décalage par rapport aux modélisations recherchées par l'enseignant. Vous voyez ici, l'élève a été happé, on va dire, par la relation fonctionnelle entre les boîtes et les jetons, et donc alors qu'on est dans une situation d'addition, eh bien, il a réinterprété le problème comme une multiplication. On a des données dans lesquelles on implémente et puis on met en œuvre, donc toujours avec l'idée de progression qui peuvent être présentes en classe, qui sont mises en place par les enseignants eux-mêmes. Ici, on a un travail qui est dans le cadre du projet ACE Arithmécole, qui est un projet qui porte sur l'ensemble du programme de CP, CE1, CE2, dans lequel on va travailler ce type de situation. Par exemple, ici, on est au CP, vous avez Zoé qui fait un petit train. Le train a deux wagons rouges et des wagons verts. Au total, son train a 16 wagons. Combien de wagons verts son train a-t-il? Et en fait, ici, si vous voyez ce qui va se passer, pour la plupart des élèves, ça va être très difficile parce qu'il s'agit d'aller de 2 jusqu'à 16. Et aller de 2 jusqu'à 16, c'est difficile à compter mentalement lorsqu'on est au CP. Et donc, en fait, l'enjeu, ça va être le passage de compter de 2 jusqu'à 16 à enlever 2 de 16. Et donc, il y a tout un travail qui est fait autour de ce recodage que aller de 2 jusqu'à 16, c'est pareil. Ça peut être fait en tournant le train, par exemple. À l'issue de séquences d'apprentissage assez développées, eh bien, on a pu s'assurer du progrès des élèves en comparant donc des élèves qui avaient suivi cette progression d'apprentissage avec des élèves témoins. Et en fait, on a observé à la fois un progrès sur l'ensemble des sortes de problèmes et puis le fait que ceux qui avaient suivi la progression qui s'appuyait sur le recodage sémantique réussissait à utiliser plus facilement les notations formelles, y compris dans les problèmes où on cherche combien on a gagné. Également, on a mené des travaux sur le raisonnement proportionnel dans cette perspective, avec l'idée qu'on puisse prendre plusieurs points de vue sur les situations et que cette diversité de prises de points de vue va aller permettre d'avoir les stratégies les plus adaptées à la situation. Et donc, quelle est l'idée? Ben, l'idée, c'est de, on cherche à développer la question donc des structures multiplicatives qui dépendent d'un certain nombre de notions. Donc, à chaque fois, on peut se poser la question des intuitions qui sont rattachées à ces différentes notions. Donc, il y a la question de distinguer structure additive et multiplicative. Par exemple, 2 plus et fois plus, hein, c'est un vrai enjeu en fin d'école primaire. La question des problèmes multiplicatifs, des questions de distributivité, factorisation et développement, les problèmes fractionnaires, les problèmes de proportionnalité, avec à chaque fois une démarche où on s'intéresse à la conception intuitive, on cherche quel est l'objectif, c'est-à-dire la notion scolaire, on va chercher à favoriser le fait d'adopter plusieurs points de vue sur une situation et d'expliciter, de faire expliciter les points de vue avec et par les élèves, et puis de diversifier les contextes d'apprentissage. Alors concrètement, si on a un énoncé comme « j'ai 2 muffins à la cerise, j'ai 8 muffins au chocolat », est-ce que j'ai plus de muffins à la cerise ou au chocolat? Combien de plus? Combien de fois plus? Et là, vous voyez que sur une même situation, on peut le penser en 2 plus ou en fois plus. Et donc, ça va aider l'idée du rapport, hein, combien est-ce que j'ai d'oranges par pomme, hein, dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, ça fait partie de ce qu'on peut travailler avec les élèves. Et puis ici, j'ai mangé un quart de 2 carreaux de chocolat. On va proposer aux élèves plusieurs stratégies pour le résoudre. Et donc, on a un point de vue par partie. Et là, vous voyez que ça correspond en fait à l'intuition dans lequel on va additionner 2 fois un quart. Mais on peut aussi envisager le point de vue de la totalité. Et cette fois, la totalité, on va considérer qu'on prend la moitié du premier carreau de chocolat. Probablement, avec ce raisonnement, l'idée que 3 quarts d'heure, ça fait 3 quarts d'une heure, devient accessible. L'idée de faire expliciter les points de vue, j'ai appris que 3 fois plus et 3 de plus, ce n'est pas pareil. 3 fois plus, c'est quand on multiplie par 3. 3 de plus, c'est quand on rajoute 3. On a appris à faire la différence entre fois plus et 2 plus. Vous voyez cette démarche d'explicitation. Et puis, les résultats ont été très favorables, à la fois globalement, à l'issue d'une année d'expérimentation. C'était sur un semestre d'enseignement. À chaque niveau scolaire, CM1 et CM2, également quand on fait les analyses par origine socio-économique dominante dans les écoles, on retrouve que les résultats sont persistants. Et puis, lorsqu'il s'agit des différentes notions qui sont travaillées, on a également l'écart qui est significatif à chaque fois pour chacun des types de problèmes. Et puis le dernier projet que je vais présenter rapidement, c'est celui dont est dérivé justement le problématique auquel Stanislas faisait allusion tout à l'heure. C'est un projet dans lequel on va systématiser à destination vraiment d'une possible implantation en classe. C'est ce cadre. Alors je vais pas rentrer dans tous les détails, il y a des formes d'analogie que j'ai pas abordées parce que ça serait un petit peu technique, mais on différencie différentes formes d'intuition, on fait appel à des outils de modélisation, on fait appel au recodage sémantique tel qu'on l'a identifié, et puis il y a tout un ensemble de documents pédagogiques et de séances d'apprentissage. Un pré-test et un post-test, une séquence de 15 séances d'apprentissage, une séance par semaine, avec donc un programme de bien défini sur chacune de ces 15 séances, des fiches assez précises qui décrivent les objectifs des séances, des documents pour accompagner l'enseignant, des documents pédagogiques qui peuvent être vidéo projetés, des documents sur lesquels les élèves peuvent travailler. Et puis, on a pour l'instant, alors il y a une bonne partie des résultats qui sont encore en cours d'analyse, mais il y a une première étude pilote dans laquelle on a eu des résultats qui étaient déjà tout à fait favorables sur 10 séances d'apprentissage, en particulier sur quelques semaines, les CM1 au post-test sont devenus aussi bons que les CM2 au pré-test. Donc, d'une certaine façon, ils ont rattrapé les élèves de CM2.
une recherche un petit peu plus ample, cette fois sur une progression complète de 15 séances d'apprentissage à l'issue de 12 heures de formation des enseignants. L'aspect formation est aussi très important, a donné des résultats aussi très favorables sur l'ensemble des opérations et sur les situations contre-intuitives comme intuitives. Et donc je m'en arrêterai là parce que on arrive à la fin de cette conférence. Je ne rentrerai pas plus dans le détail, mais on pourra discuter si vous avez des questions. Et donc, pour conclure, cette idée de réconcilier intuition et sens mathématique, donc les idées que j'ai essayé de rendre les plus claires possibles, et c'est la première, c'est le fait de faire évoluer les intuitions. Donc on est dans une idée d'intuition potentiellement en transformation, qu'on peut le faire en travaillant avec de façon très très concrète la perception des analogies cachées entre situations intuitives et non intuitives. C'est vraiment l'enjeu de la modélisation et du recodage sémantique. Et donc, pour cela, on peut s'appuyer sur la résolution de beaux problèmes qui vont receler le potentiel de susciter plusieurs points de vue sur un même problème, et de façon à pouvoir percevoir des structures mathématiques communes au-delà de différences superficielles. C'est l'enjeu de l'évolution des intuitions, mais il y a aussi tout un enjeu que je n'ai pas du tout abordé, mais qui est sans doute tout aussi crucial, c'est la question du transfert d'apprentissage, parce que une des questions peut-être les plus systématiques dans le domaine de l'enseignement, c'est de savoir comment ce qui a été appris dans un contexte donné peut se transférer dans un contexte différent. Et avec le même prisme que celui de intuitif versus contre-intuitif, eh bien on peut se poser la question de comment faire émerger des compréhensions suffisamment générales pour qu'elles puissent s'appliquer à des contextes nouveaux. Donc cet enjeu est tout aussi présent, même si je l'ai pas abordé. Donc voilà, c'est vraiment ces quelques points de conclusion. Et puis pour finir, je souhaite dédier cette conférence à la mémoire de Jean-François Richard, qui est un très grand psychologue expérimentaliste qui nous a quittés au début de ce mois et qui était sans doute le plus grand spécialiste aussi en France de la résolution de problèmes. Merci beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.